Bonjour tout le monde. Alors, avant d'aller dans la parole, d'entamer, closer un peu la série que mon frère Yannick a entrepris, j'aimerais simplement qu'on puisse se courber, mettre un temps dans la prière et je vais inviter Julie également à s'avancer pour la lecture du texte qu'on va voir ce matin. Alors, Seigneur, notre Papa du ciel, ce matin, on veut simplement avancer devant toi avec humilité. Seigneur, on veut ouvrir nos esprits, nos âmes devant toi. On veut surtout ouvrir nos cœurs, Seigneur, ce matin devant la merveilleuse loi que tu nous as mise, Seigneur, afin de pouvoir refléter qui tu es. Seigneur, dans le désert, tu as donné 10 commandements à ton peuple, Seigneur, des commandements qui nous apprennent à mieux te connaître, connaître qui tu es, connaître pourquoi, Seigneur, tu as décidé de te révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, puisses-tu ce matin vraiment nous remplir de ton Esprit Saint, que nous comprenions, Seigneur, ce commandement absolument béni que tu nous as donné avec tant de grâce. Merci, Seigneur, pour ta loi de grâce qui nous conduit sur le chemin de vie. Apprends-nous à y avancer avec humilité, avec sagesse et avec discernement. Merci pour tout. Amen.
La lecture biblique de ce matin est tirée du livre d'Exode au chapitre 20, versets 1 à 15. Exode, chapitre 20, versets 1 à 15. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui garde mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni ceux qui prendront son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Merci beaucoup. Alors, ce matin, on aborde le dernier commandement. La loi de Moïse, j'ai eu l'occasion sur Internet de suivre la série d'Yannick et j'ai été extrêmement béni à travers cette série, surtout béni de mieux connaître mon Créateur, connaître qui il est, connaître ce qu'il est capable de faire et à quel point il me donne la grâce de pouvoir mieux le connaître en me révélant qui il est et surtout toutes les applications qu'on a faites évidemment avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est la révélation suprême de notre Père Céleste. Alors, ce matin, on aborde le dernier commandement. Tout simplement, tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain. Quel sujet pour la fête des pères. Incroyable. Yannick m'a proposé ce mandat-là il y a quelques semaines de cela, et j'y ai demandé. Yannick, t'es-tu sûr, là? C'est la fête des pères, t'es-tu sûr que ça accrochera pas? Dis, non, Miguel, c'est correct, vas-y. Bon, ben parfait, maintenant, c'est legit. Alors, on peut y aller avec ça. Alors, avant d'entamer un peu, avant d'aller remarquer, qu'est-ce qu'on peut remarquer au sujet de ce commandement-là? J'aimerais simplement vous raconter une petite histoire. Il y a à peu près un an de cela, Peut-être que vous n'en apercevez pas pour le moment, mais j'ai remarqué que ma condition physique laissait plutôt à désirer. Alors, pendant plusieurs années, j'ai exercé le rôle de technicien en arpentage et je marchais régulièrement 5, 6, 7 kilomètres par jour. Ça suffisait pour me tenir en forme. Et il y a 5 ans de ça, j'ai commencé le ministère pastoral à l'Église baptiste évangélique de Rivière-des-Prairies, qui est dans le nord-est de l'île de Montréal. Et là, je marchais plus autant, disons. C'était plus du travail du bureau, travail avec les gens. Et disons que ma condition a commencé à en prendre pour son rhume. J'ai commencé à engraisser. J'ai commencé à être beaucoup plus fatigué à mes fins de journée. Même si je dormais un peu plus, j'étais plus fatigué. Alors là, je me suis dit tout simplement, si je veux continuer à servir ma femme, si je veux continuer à servir mes enfants, mon quartier, mon église, si je veux continuer à servir mon Créateur, celui qui a donné sa vie pour moi, eh bien, je dois faire des ajustements, des ajustements à mon mode de vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, vous m'excuserez, je suis encore un peu dinosaure là-dessus, moi je suis encore au format papier. Alors, je vois tout le monde avec leur sel, moi je suis encore dans le format papier. Alors, j'étais un dinosaure sur cet aspect-là. Alors, il y a un an, j'ai pris la décision de commencer à faire du vélo. On peut passer à la prochaine. Bon, excellent, c'est super ça. Alors, j'ai commencé à faire du vélo tranquillement et de manière plus régulière. Et pour bien être bien honnête avec vous, j'ai vraiment attrapé la piqûre. Le vélo, pour moi, c'était rendu quelque chose dans lequel je m'épanouissais beaucoup. C'était même pas un effort, j'avais même pas besoin de discipline pour en faire. C'était comme naturel. Et à ce moment-là, mon corps a pris une certaine cadence et j'ai commencé à perdre du poids. J'avais plus d'énergie, plus d'entrain pour affronter mes journées. Je me sentais vraiment bien dans ma peau. Et à ce moment-là, je me suis fixé un objectif. Je voulais faire 100 km par semaine. Ça me semblait raisonnable, à peu près 1 heure par jour. Donc, je me suis dit 25 km par jour. Alors, pendant tout l'été, je continue encore. Alors, pour l'instant, ça va bien. Mais à un moment donné, durant l'été, pas loin de chez moi, j'ai découvert un magasin de vélos. Et c'est alors que je suis entré dans un monde qui a suscité dans ma tête beaucoup de désirs et beaucoup d'envie. En entrant dans ce magasin-là, j'ai découvert toute une panoplie de gadgets et toutes sortes de choses qui pouvaient m'aider non seulement à remplir le mandat, le but que je m'étais fixé, mais également aller plus loin. Pourquoi pas plus que 100 km par semaine? Pourquoi pas 150? Pourquoi pas 200? Et évidemment, pour ça, ben, ça demande un minimum de confort. Et là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus loin? OK, bon, je vais ajuster ma selle. Bon, parfait, c'est bon. Une selle plus confortable. Je vais m'installer une espèce de porte-bouteille. Je vais m'acheter un odomètre pour calculer mon kilométrage, calculer ma vitesse de pointe. Je vais m'acheter des espèces d'huile pour graisser ma chaîne comme il faut. Je vais m'acheter un chandail, un cuissard. Malheureusement, j'ai pas de photo pour vous de ça, là. Mais je me posais la question toujours, comment je peux mettre la barre un peu plus haute? Comment je peux me rendre la vie plus confortable? Et au début, bon, j'ai commencé par poser certains gestes, mais à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'achète ces choses-là? Et finalement, je me rendais compte qu'avoir toutes ces choses-là, ça me rendait heureux. Jusqu'à ce que mes désirs et mes envies se portent vers d'autres gadgets. Pourquoi pas un nouveau dérailleur? Pourquoi pas des pneus plus performants? Pourquoi pas une suspension plus ferme? Bref, pourquoi pas un nouveau vélo tant qu'à y être? Hein? Mais pourquoi pas? Et je me suis aperçu finalement que mes désirs, même si je les comblais un à un, il y en avait toujours un autre qui naissait. Et à un moment donné, je me suis assis avec ma femme. Et je disais, écoute chérie, si tu veux un mari en forme, là, si tu veux avoir un mari qui est en shape, j'ai besoin de faire du vélo, mais voici, là, j'ai besoin de ça pour être en forme. Et en jasant avec elle, je me suis aperçu qu'évidemment, regardant le budget, oh, il y avait des écarts qui commençaient à se creuser. Là. Il y avait des écarts qui commençaient à se creuser. On s'est rendu compte que ça pouvait commencer à nous coûter cher, même très cher. Mais quand je voyais un cycliste qui avait tout ce que je rêvais, alors là, je me disais dans mon cœur, hey, lui, là, si j'avais tout ce que ce gars-là y a, enfin, je serais un cycliste heureux. Un cycliste satisfait dans tous mes désirs et je pourrais servir avec une bonne condition physique, je pourrais servir, mieux servir. Mais je me suis rendu compte, finalement, qu'en achetant tous ces gadgets-là, il y a quelqu'un qui payait au bout de la note. Le temps de qualité avec mes enfants commençait à être moins de qualité. Moins de temps avec ma femme, moins de temps dans la prière. Alors là, je me suis rendu compte, wow, si je ne mets pas un frein à mes désirs puis à mes envies, je vais commencer à me lancer sur une pente glissante. Et il y a quelqu'un qui va payer le prix de ça. Et l'être humain est ainsi. Lorsqu'il voit quelque chose qui lui fait envie, quelque chose qui lui trouve agréable, quelque chose qui le séduit, qui le captive, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il se dit comme Ariane Moffat, « Je le veux tout de suite, maintenant, puis ici. » Quand on trouve quelque chose qui enchante notre cœur, qui nous captive, on ne le veut pas demain. On le veut tout de suite. Et on est parfois prêt à faire beaucoup de sacrifices pour posséder ce que notre cœur veut convoiter. Peu importe ce qui pourrait éventuellement nous rendre la vie plus agréable ou confortable, nos cœurs sont continuellement bombardés par des désirs et des envies qui ont le potentiel d'attiser notre convoitise. Imaginez pendant un instant que je vous permette d'améliorer votre condition de vie. En un instant, vous avez la possibilité de posséder la chose qui pourrait améliorer votre vie, lui donner un plus. Qu'est-ce que ce serait? Quelle est la chose que vous aimeriez avoir absolument pour que votre vie soit plus confortable, plus agréable? Quelle est cette chose après laquelle votre cœur soupire pour avoir une vie un peu plus belle? Est-ce que c'est plus de temps libre? Peut-être un sommeil moins agité. Peut-être des enfants moins turbulents. Peut-être une maison plus spacieuse. Un conjoint, une conjointe plus compréhensive. Peut-être un emploi dans lequel vous vous épanouissez. Peut-être un autre patron. Quelle est la chose dans votre cœur, la première chose qui vient à votre esprit, qui pourrait, du jour au lendemain, améliorer votre qualité de vie? Je suis persuadé ce matin que vous aspirez à quelque chose qui pourrait potentiellement améliorer votre condition de vie. Parce que notre condition de vie, c'est comme une roue sans fin. Alors, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour l'améliorer, notre condition de vie. Ça n'arrête pas, ça. Il y a toujours moyen d'avoir plus. C'est un peu comme les désirs, les envies. À chaque fois qu'il y en a un qui est satisfait ou comblé, il y en a un autre qui naît. C'est une roue sans fin. Ça tourne, ça tourne. Il y a toujours moyen de faire mieux. Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans le livre de l'Exode, Dieu conclut la série des 10 commandements en nous donnant un aperçu de ce que veut dire tous les commandements qu'il vient de donner auparavant. En nous disant, voici ces commandements que je donne à mon peuple, ce sont les 10 commandements. Mais à la fin, je vais vous donner un commandement qui est à la racine de tous les autres. Et simplement vous dire comment Dieu aborde ce sujet de la convoitise. On va relire ensemble le dernier commandement à partir du verset 17. Alors voici ce que nous dit le verset. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Le dernier commandement que Dieu donne à son peuple ici est très clair. Ce que l'Éternel dit à son peuple qui est alors dans le désert, c'est « Maintenant que je vous ai libéré d'une situation d'esclavage en Égypte et que c'est ma main, hein, n'oubliez pas, avant les commandements, Dieu nous dit que c'est la main de l'Éternel qui a sorti le peuple d'une situation d'esclavage. Dieu a libéré son peuple et ce qu'il dit à son peuple, c'est « Maintenant, vous êtes libres. » Vous êtes libres parce que non seulement les Égyptiens ne sont plus là pour vous opprimer, mais vous êtes également libres de suivre ma loi. Vous êtes libres de ne pas convoiter ce qui appartient à votre prochain. Donc, c'est une grande puissance. C'est une grande puissance à laquelle Jésus nous invite ici, à travers évidemment les 10 commandements, de ne pas convoiter. Mais que veut dire le mot « convoiter » exactement? Mais si on regarde le mot hébreu, le mot « convoiter » signifie tout simplement le fait de désirer, prendre plaisir, être enchanté par ce qui est agréable à notre cœur. lorsque je suis devant quelque chose, une situation, une relation ou une personne qui attire mon regard, qui stimule mon imagination et qui suscite en moi un désir de possession parce que je trouve cette chose belle et séduisante, eh bien, je suis devant quelque chose que je peux convoiter. Et ça, ça ne se limite pas à un objet. Ça peut aller dans une relation qui me fait envie, une situation, ça peut toucher n'importe quel domaine de notre vie. Et la question que l'on peut se poser ici, d'une certaine manière, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu appelle son peuple à ne pas convoiter ce qui appartient à son prochain? C'est quoi le motif qui soutient la nature du commandement qui concerne la convoitise? Au cours de mes recherches, une des choses que j'ai remarquées à ce sujet-là, c'est que dans tous les textes de loi qu'on retrouve de cette époque, donc ça, c'est environ 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait plusieurs peuples qui avaient établi des codes de loi, et dans les fouilles archéologiques, on a découvert beaucoup de fouilles, on a découvert beaucoup de textes de loi, et ce qui semble être clair, c'est que seule la Bible mentionne cette clause-là qui est liée à la convoitise. Ce qui fait l'originalité des 10 commandements, c'est qu'il y a un commandement concernant la convoitise, alors que tous les autres textes de loi qu'on retrouve de cette époque, il n'y en a aucun qui retrouve la convoitise. Or, on retrouve des textes comme « Tu ne tueras pas », on retrouve des textes comme « Tu ne porteras pas de faux témoignages », on retrouve même des clauses autres que dans les 10 commandements qui concernent le repos obligatoire, le sabbat. Mais aucun ne concerne le principe de la convoitise. Évidemment, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a mis ce commandement-là pour créer quelque chose d'original dans la loi qu'il nous demande de suivre? Eh bien, si on regarde les 10 commandements dans leur ensemble, on peut savoir qu'il y a des choses précises que Dieu nous demande de faire. Il y a des spécifications que Dieu donne à son peuple. Et en fait, on pourrait dire que les 10 commandements ressemblent un peu à un sandwich. Alors, bon, ouais, excellent. Alors, vous avez le premier commandement qui nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Imaginez que vous avez la première tranche de pain. Vous avez le dernier commandement qui nous dit « Tu ne convoiteras pas », qui est l'autre tranche de pain en dessous. Et entre les deux, vous avez vraiment des spécifications très précises, beaucoup plus concrètes, des choses que Dieu nous demande au niveau éthique et comportemental. Mais entre les deux, Dieu nous donne deux commandements qui sont un peu différents. Si j'enlève les deux tranches de pain, qu'est-ce qui va arriver avec tout le reste? Ça va tout simplement s'effondrer, ça va s'effoirer. Alors, on comprend ici que ce qui est intéressant, ce qui est clair, c'est que contrairement aux autres textes de loi, les 10 commandements ne se contentent pas d'établir un cadre éthique et moral sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, sur ce qu'on peut pas, sur ce qu'on peut faire et peut pas faire. Les 10 commandements s'adressent plus loin que notre comportement, plus loin que notre éthique, plus loin que l'image que l'on projette à travers ce que l'on fait ou ce que l'on fait pas. Les 10 commandements s'adressent naturellement au cœur de l'être humain. Et c'est ce qui est indiqué ici par les deux tranches de pain, dans le premier et le dernier commandement. Tout le reste ne vaut plus rien si les deux commandements qui s'adressent au cœur de l'être humain ne sont pas adressés. Si on enlève et le premier et le dernier commandement, tout le reste s'écroule. Les commandements ont ceci d'original qu'ils nous indiquent non seulement des gestes à produire ou à éviter, mais ils nous propulsent au cœur de la pensée et de l'esprit de l'être humain. C'est ce qui est extraordinaire dans les 10 commandements, c'est que c'est une série de commandements qui s'adresse à l'ensemble de l'être humain. Pas juste à ce qu'il est capable de faire ou pas faire, mais même à ce qu'il est capable de penser. Ça, c'est extraordinaire. Et ça va également dans le même point, dans la même direction dans laquelle Jésus lui-même nous enseigne lorsqu'il nous dit dans Matthieu, au chapitre 15, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. On voit très bien ici que Jésus nous dit exactement que tout ce qui est compris entre le premier 10 commandements, tout ça vient d'où? Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et regardez par la suite ce que nous dit Jacques. Regardez ce que nous dit Jacques au chapitre 1. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. On voit très bien ici toute l'organisation de comment la Bible nous invite à aller plus loin vers le Nouveau Testament, comment les 10 commandements dirigent vers ce qui va être plus loin, la révélation de Jésus-Christ et également des apôtres dans le Nouveau Testament. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'à travers les 10 commandements, on veut non seulement vous dire, voici, il y a une tige, il y a un pissenlit dans ta vie. Maintenant, coupe pas juste la tige. Fais pas juste attention au comportement, mais enlève la racine. Va au cœur du commandement, parce que si tu fais juste couper la tête du pissenlit, il va repousser. Tu n'as pas été au cœur du problème. Et c'est ce que nous indiquent les 10 commandements à travers la convoitise. Ils nous invitent à une introspection de notre cœur. Pourquoi est-ce que je peux avoir un problème avec le vol, avec l'adultère, avec le mensonge, avec le faux témoignage, ou même avec le respect du sabbat? Ce n'est pas des choses qui viennent de nulle part. Ça vient d'une dimension de notre cœur. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'offense envers la loi de Dieu commence toujours par une pensée, commence toujours par un désir, quelque chose que nous convoitons dans notre cœur. Souvenez-vous de David. À quel moment David a chuté dans sa vie? Quand il a convoité la femme de Uri, quand il a convoité Bathsheba. Ça l'a conduit à quoi? À l'adultère. Et au meurtre, le meurtre d'Uri, mais à la base, c'est une pensée du cœur. À quel moment, par exemple, vous vous souvenez de Akab? Akab était un roi en Israël, et à quel moment est-ce que Akab a convoité dans sa vie, je suis convaincu que vous vous souvenez peut-être d'un certain Naboth qui avait une vigne, et que Akab convoitait la beauté de la vigne de Naboth, pardon. Il convoitait sincèrement la vigne, il la trouvait belle, il était séduit par la beauté de la vigne de cet homme-là qui refusait de lui céder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Accusé faussement, mis à mort faussement. Tout ça commence avec la convoitise. Pensez à Ananias et Saphira. À quel moment est-ce qu'Ananias et Saphira ont décidé de mentir au Saint-Esprit? Lorsqu'ils voyaient des gens qui donnaient toutes leurs possessions pour que les apôtres puissent en disposer pour distribuer aux pauvres. Ils ont voulu faire comme les autres. Ils ont voulu développer une belle image de marque dans la communauté chrétienne de l'époque. Ils ont voulu convoiter ce que les autres faisaient. Ils ont voulu avoir une belle image. Ils ont convoité. Il faut que les gens pensent du bien de nous. Et ça les a poussés au mensonge. Partout dans les Écritures, on peut voir cela. Que c'est à la base de notre convoitise dans notre cœur que tout le reste commence à dérouler un à un. Les exemples ne manquent pas dans les Écritures pour nous montrer que la convoitise et le fait de désirer quelque chose qui nous apparaît comme agréable, beau, peut nous entraîner sur une pente glissante. Prenez par exemple le moment. Prenez le moment où est-ce que vous rentrez à la maison. Peut-être que c'est de l'école après une dure journée au cégep, à l'université, au secondaire. Peut-être que c'est une dure journée au travail. Et là, quelle est la première chose que vous avez besoin en rentrant à la maison? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je veux la paix. Vous savez, là, ce qu'on appelle la sainte paix, là, moi, je veux la tranquillité. J'ai une dure journée au travail. Je reviens au confort de mon foyer. Oh, je veux juste me reposer. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben là, il y a un petit frère ou une petite sœur ou un enfant qui est après nous. Et là, il ne nous a pas vus de la journée. Il s'est ennuyé. Et là, il s'agrippe après notre patte. Et là, il nous pose 10 000 questions. Ou attends une minute, là, ça ne marche pas, là. J'ai un désir, moi, dans mon cœur. Je convoite d'avoir la paix. Et j'ai une petite bébite à côté de moi qui est en train, d'après ma jambe, qui me pose 100 000 questions. Là, qu'est-ce qui risque d'arriver? De l'impatience, de la frustration, peut-être de la colère, qui sait même de l'agressivité. Pourquoi? Parce que ce que mon cœur convoite, il ne l'a pas. Mon cœur convoite quelque chose, il n'arrive pas à l'avoir. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, mon cœur commence à glisser tranquillement sur une pente qui est très huilée. Et il glisse. Et là, quand le hamster court, c'est difficile de l'arrêter. Ce qui est clair, c'est que notre soif de posséder la chose que nous désirons à tout prix nous obsède à un tel point que nous n'arrivons pas à nous imaginer la vie autrement que si j'avais cette chose-là. Notre désir se transforme alors en quoi? En un besoin, une idole qui se doit d'être satisfaite à tout prix. Si mon cœur n'a pas ce qu'il convoite, la vie ne peut pas être comme ça. Pour que la vie soit remplie, pour que la vie, je la trouve belle et agréable, bien mes désirs, ce que je convoite, doit être satisfait. Ah, si mes parents pouvaient essayer ou arrêter de contrôler tout ce que je fais. Ah, si seulement je pouvais gagner un 20 000 de plus. Il me semble que la vie, c'est tellement plus agréable. Ah, si seulement j'avais plus de temps pour mes passe-temps, si j'avais un conjoint plus comme ceci ou moins comme ça, si je pouvais perdre un 20 ou un 30 livres, il me semble que la vie serait tellement plus belle. Ah, si je pouvais travailler dans un domaine que j'aime vraiment. Si mon patron était plus souple, moins intransigeant. Ah, si mes problèmes de santé pouvaient enfin se régler. Si j'avais seulement un conjoint avec qui partager ma vie, il me semble que la vie serait tellement plus belle. Ou encore, ah, si seulement j'avais l'enfant, si jamais j'avais le bébé après lequel je soupire depuis tant d'années et que malheureusement la vie ne me permet pas d'avoir. Il me semble que la vie serait tellement plus agréable. Tous ces désirs sont en fait des choses que nos cœurs convoitent. Et qu'est-ce qui arrive alors? Eh bien, notre imagination se met en marche et à se fabriquer toutes sortes de scénarios sur combien la vie serait plus riche, plus agréable, plus belle si mon désir était enfin comblé. Dans chaque être humain, il y a toujours une espèce de patente qui pourrait nous faciliter la vie. Une espèce de patente qui pourrait nous rendre la vie plus agréable, plus confortable. Puis quand c'est pas une cuisine plus fonctionnelle, ben c'est peut-être un nouveau iPhone, une voiture plus spacieuse, une relation ou une situation qui me fait envie, puis que quelqu'un a, puis que je suis vraiment jaloux. J'ai entendu dire entre les branches que la semaine dernière, Yannick a dit à certaines personnes, « Je suis jaloux. » Je suis jaloux parce que Miguel va prêcher sa convoitise, puis j'aurais tellement ça le faire. Excuse-moi, Yannick. L'occasion était trop belle. Mais il y a plusieurs choses après lesquelles on peut soupirer une patente qui pourrait nous améliorer la vie. Ça peut être un mariage, un enfant, une situation financière, une condition physique, qui sait, peut-être même un nouveau vélo. Qu'est-ce qui pourrait me permettre d'agir avec plus de liberté? Au fond de moi, il y a toujours un désir, une patente qui me fait rêver. Dans une de ses chansons, le poète québécois Daniel Boucher nous parle de cette patente. Et voici ce qu'il nous en dit. La patente te watch. Elle tente de vendre ton âme blanche et d'en faire sa servante. Ça t'atteint sans que tu le sentes. Ton âme flanche. Soit qu'on choisit de se rendre, soit qu'on se défende. Hein, c'est intéressant ce regard-là d'un non-croyant qui a examiné la même chose que les Écritures nous disent, que le choix de l'être humain devant la convoitise est très simple. Soit l'être humain abdique, puis il se laisse dominer par ses désirs, par ses pulsions, ou bien il choisit de se défendre contre la pente glissante contre laquelle ses désirs peuvent le faire glisser. Et la question qu'on peut se poser, c'est « Ok, Miguel, je comprends. D'accord, je viens de comprendre ce que tu veux me dire au sujet de la convoitise. Ça, c'est un aspect du cœur. Et si je ne fais pas attention à ce que je convoite, si je ne fais pas attention à ce que je convoite, ça risque de faire des ravages dans ma vie. OK, je ne veux plus convoiter. J'ai compris, là, OK, tu m'as convaincu. Je veux me défendre contre ces choses que mon cœur convoite et qui fait de moi un esclave d'un puissant fond. OK, j'ai compris. Mais comment? Comment je fais ça, me défendre? Comment est-ce que je peux éviter de devenir l'esclave de mes envies? C'est quoi le remède? Dan ne nous le dit pas dans sa chanson, là. Il nous expose le problème, mais il ne donne pas de remède. Tout ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes devant un choix. Ou bien on se rend, ou bien on se défend. Une des choses qui est claire dans la parole de Dieu à ce sujet, au sujet de la convoitise, c'est que toute convoitise n'est pas nécessairement mauvaise en soi. Dans l'exposé des 10 commandements, on a vu que le principe de la loi nous dit que Dieu nous invite à ne pas convoiter ce qui appartient à mon prochain. Mais dans un texte comme dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31, on nous dit que, à propos de l'apôtre Paul, qui dit à tous les croyants, d'aspirer ou encore convoiter les dons les meilleurs. Est-ce que c'est possible de convoiter de manière spirituelle pour combattre la convoitise qui est liée à notre chair si faible? Et c'est là le remède que nous propose la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux dire que tel désir dans ma vie est malsain, puis tel autre est honorable? Comment est-ce que je peux savoir si tel aspect de la convoitise dans ma vie, ça peut m'entraîner sur une pente glissante, puis tel autre aspect, mais au contraire, ça peut me rapprocher de Dieu? Comment je peux faire la différence entre les deux? La question, la réponse à cette question-là n'est pas aussi simple qu'on voudrait. Quand quelque chose séduit notre cœur, cela provient en grande partie de notre imagination. On s'imagine tout ce que cette patente-là qu'on convoite, ce désir-là, on s'imagine tout ce que ça pourrait nous amener de positif à notre vie. Vous savez, l'imagination, c'est une création divine merveilleuse. Elle nous permet d'être créatifs, d'être original, de sortir des sentiers battus et de défricher de nouvelles terres pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous a donné pour célébrer sa gloire. Mais en même temps, l'être humain est un spécialiste dans le fait de tordre ce que Dieu lui a donné comme bénédiction. Et l'imagination fait partie de ce qu'on peut tordre. Et c'est là que la convoitise peut jouer un grand rôle. L'imagination, vous savez, ce n'est pas une petite bête qu'on peut apprivoiser comme ça. L'imagination n'est pas une petite bête qu'on peut apprivoiser comme ça. Ça demande du travail, de la prière. Ça nous demande des frères et des sœurs qui sont près de nous, qui sont capables de nous remettre en question. Parce que si on s'approche de la petite bête, on ne sait pas comment qu'elle peut réagir. Le seul remède pour remédier à la convoitise, ce n'est surtout pas d'arrêter de convoiter. S'il y aurait une chose que j'aimerais que vous retourniez à la maison ce matin, c'est pas « OK, Miguel nous a invités à arrêter de convoiter ». C'est la dernière chose que j'aimerais que vous repartiez ce matin. J'aimerais que vous, plutôt, vous vous disiez « Dieu prend plaisir à ce que je puisse aimer et contempler ce qu'il a créé de beau et de magnifique ». Dieu prend plaisir à ce que je prenne du temps pour admirer ce qu'il a créé de beau et le rendre grâce pour toutes ces choses qu'il a mises devant moi. Un des endroits où j'aime beaucoup faire du vélo dans mes loisirs, Rivière-des-Prairies, je vous dis, si vous aimez le vélo, allez faire du vélo à Rivière-des-Prairies. C'est incroyable de se promener sur le bord de la rivière l'été. Il y a des boisés incroyables, à peu près 30 km de boisés. On se ramasse en pleine campagne. C'est incroyable. Et je remercie Dieu pour ce temps-là qui me permet, simplement de pouvoir admirer sa nature, d'être dans le calme et simplement d'admirer ce qu'il m'a donné, ce qu'il nous a donné en tant qu'être humain. Mais le défi, ça consiste plutôt dans le fait d'apprendre à convoiter ce qui vaut la peine d'être convoité. Le problème de notre cœur, c'est qu'il ne sait pas évaluer ce qu'il faudrait convoiter. La seule manière pour nous de se défendre contre les illusions de bonheur que peut susciter la convoitise, la patente qui suscite dans notre cœur plein de désirs et qui fait partir la machine à imagination, c'est plutôt d'admirer l'objet ultime qui devrait être notre convoitise. Et voici ce que nous dit 1 Timothée, chapitre 6, à ce sujet. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ce n'est pas très winner jusqu'à date, là, on va continuer. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fait une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède toute l'immortalité qui habite, une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ce texte-là nous invite à faire, c'est à voir en Jésus-Christ l'objet ultime de notre convoitise, de contempler la beauté qui est en lui. Un fils qui est descendu du ciel, où il avait tout ce qu'il avait pour vivre une vie parfaite et confortable dans l'intimité de son Père, et qui a bien voulu partager avec nous, venir dans un monde troublé de souffrance, afin de voir en lui, que nous puissions voir en lui toute la gloire de Dieu qui va être manifestée à la croix. Et il va nous dire, viens à cette croix. Repens-toi de ce que tu es, de ta faillibilité, de tes péchés, de tes fautes. Tu manques la cible, c'est pas grave. Tu as l'impression d'être rien, c'est pas grave. Moi, je vais te donner une valeur. Moi, je vais te donner une valeur que personne ne peut t'enlever. Je vais te donner mon Fils. Non seulement pour le pardon de tes péchés. Non seulement je vais mettre ma colère sur lui pour que le châtiment de tes fautes puisse être pardonné, mais en plus, je vais t'adopter. Je vais t'amener avec moi dans ma famille. Et là, tu vas avoir l'objet ultime de ce qu'aucune convoitise sur terre ne pourra t'amener. Vous savez, le texte nous parle ici de contentement. Pour contrer nos désirs, nos envies. Et je pourrais vous dire qu'au début, ça pourrait peut-être, pour certains d'entre vous, paraître simpliste. Peut-être que ça manque de panache, que ça manque d'ambition, que de savoir se contenter de ce qu'on a pour lutter contre la convoitise. Il y a un proverbe québécois qui nous dit tout simplement que nous sommes nés pour un petit pain. Hein? Contente-toi de ce que tu as, là. Contente-toi du petit monde dans lequel tu vis, puis arrête de convoiter. Apprends à te contenter de ce que tu as. Est-ce que c'est ce genre de contentement-là que Paul nous invite ici? Pas du tout. C'est plutôt une vie où nous sommes appelés non pas à vivre dans l'abstinence, dans l'abnégation et le refus de trouver ce qui est beau et même d'y aspirer. Non, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas contre notre désir de rechercher ce qui est beau, mais plutôt de tourner vers le regard, vers le Sauveur qui, dans toute sa beauté, est venu nous chercher, nous sceller de son esprit, nous inviter dans sa gloire, à la partager avec lui, à vivre dans cette vie éternelle-là, aujourd'hui, ici, dans un monde qui est troublé. lorsque nous voyons Jésus-Christ comme l'objet ultime de notre convoitise, il n'y a plus à se résoudre des autres convoitises, parce qu'il absorbe nos cœurs. Que voudriez-vous avoir de plus que Jésus-Christ? Pour affronter n'importe quelle dimension de notre vie avec laquelle on peut lutter. Je vais inviter tranquillement les musiciens à bien vouloir s'avancer. Dans un des chants évangéliques traditionnels de la communauté noire américaine, qui a été traduit récemment par le compositeur Christian Frappier, voici un des textes qu'on nous donne, et d'une chanson qui s'appelle tout simplement « Give me Jesus ». Et voici ce que nous dit le chant. Quand le soleil se lève, qu'il n'y ait sur mes lèvres que mon Jésus. Non, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Et lorsque je suis seul, je ne veux que lui seul, je veux Jésus. Que m'importe le monde, ses richesses sans nombre, je veux Jésus. Non, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Et quand viendra la mort, que mon chant soit encore, donnez-moi Jésus. Ce matin, j'aimerais que vous repartiez avec cette question qui est à votre cœur. Est-ce là le désir et la convoitise de votre cœur que la personne de Jésus? En être absorbé à un tel point que les gens autour de vous ne voient que lui. Peut-être qu'il y en a dans le monde qui vont vous dire, peut-être même ici qu'il y a des gens qui vont vous dire, ça Miguel, c'est juste être un Jesus freak. Peut-être. C'est possible, mais ce que ces gens négligent, c'est que notre cœur est épris par ce qu'il convoite. Notre cœur va refléter ce qu'il convoite. Il va rechercher ce qu'il convoite. Et si notre cœur convoite ce matin la personne de Jésus, vous pouvez être sûr que vos voisins, votre famille, vos collègues au travail vont être émerveillés par la personne de Jésus. Et la question qui demeure sur nos lèvres, c'est qu'est-ce que je peux faire ce matin pour absorber plus cette personne-là? Parce que vous savez, notre cœur, c'est un peu comme une éponge. Notre cœur, si on pèse dessus, il va sortir ce dont il est rempli. Une éponge, c'est la même chose. Une éponge qui est vide, il n'en sortira rien. Mais remplissez-la d'eau, il va sortir de l'eau. Et les épreuves de nos vies sont ainsi, mes amis. Lorsque nous pèsons sur notre cœur par différentes adversités, qu'en sort-il? Il va en sortir ce qu'il convoite. Ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est simplement prier. Clôturer cette série avec vous, simplement qu'on puisse voir à quel point dans ces 10 commandements, Dieu nous invite à un appel. Un appel du cœur, non pas simplement une éthique morale, quelque chose à faire ou à ne pas faire, mais simplement un appel du cœur, où tout est centré vers la vie de son Fils, qui, sincèrement, désire être l'aspect ultime de notre convoitise. Courbons-nous quelques instants et prions. Seigneur, dans ta parole, tu nous as dit que celui qui vient à toi et qui a soif, tu lui donneras à boire et qu'il n'aura plus jamais soif parce que son cœur va être rempli de toi, toi le Créateur de la vie, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le rocher de nos âmes. Toi vers qui nous tournons les regards, Seigneur, pour constamment être remplis de toi. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ta vie parfaite et de nous avoir unis à toi par grâce, ta grâce à toi. Que nos cœurs, Seigneur, ce matin, puissent apprendre à te convoiter, te chérir, te chercher, te connaître, rechercher cette intimité avec toi avant toute chose. Que notre convoitise pour toi, Seigneur, puisse être une convoitise relationnelle et non seulement chercher à savoir quoi faire, comment le faire. Seigneur, que nos cœurs puissent être un parfum de bonne offrande pour toi en cherchant toujours plus à te ressembler, en se tournant vers toi, en étant saisi de toi. Merci pour ton Fils, Père Céleste, que tu as donné pour ton Église, toi qui l'as fait grandir. Nous voulons compter sur toi, ta gloire, ta puissance, ta majesté. Amen.